rétrospective de l'actualité de la semaine.
Bonsoir à tous et bienvenue dans la rétrospective de l'actualité de la semaine du 11 au 17 janvier 2021. Le Burundi fait face à la montée des cas de Covid-19 depuis le début de cette année. Le week-end dernier, le ministère de la Santé a annoncé son nouveau patient atteint du coronavirus. Les chiffres des cas positifs continuent d'augmenter et le milieu scolaire n'est pas épargné. Réveillant, Badikamwe nous en dit plus.
Après des tests au petit séminaire de Kanyosha jusqu'au soir de ce vendredi, 60 cas étaient positifs. Nos sources n'ont pas su la suite des autres résultats qui étaient attendus. Certains de ces élèves auraient été évacués vers des hôpitaux pour des soins. Jeudi dernier, le directeur de l'école fondamentale de Luziba 1 a alerté sur un cas positif sur son école, même s'il aurait été contraint d'annuler cette alerte. À Kayanza, jusqu'au jeudi, des sources sur place affirmaient que 34 cas étaient positifs parmi les tests y effectués. D'autres 15 cas positifs ont été signalés ce vendredi vers midi et le test a continué. Mais nos sources n'ont pas parvenu à savoir la suite. Au lycée de Moaro, 4 élèves sont hospitalisés à Kibumbu après des tests qui sont revenus positifs au Covid-19. Selon des sources au lycée de Moaro, c'est ce samedi que l'équipe médicale s'est rendue au lycée pour effectuer des tests parmi les contacts des malades. Et à Makamba, le journal Igihe, au moins 79 personnes ont été testées positives au Covid-19. Ils sont des communes de Mawanda, Nyanzarake et Vugizo. Parmi ceux-ci, des élèves et des enseignants des écoles de ces communes ont été testés positifs.
Nous avons appris que 30 autres cas positifs au Covid-19 ont été détectés au lycée Mialo hier samedi. Face à la propagation de cette pandémie, le Premier ministre a rappelé mercredi la nécessité de respecter les mesures prises pour lutter contre cette pandémie. C'était lors d'une descente dans les centres de dépistage du coronavirus en mairie de Bujumbura. On écoute Alain-Guillaume Bugnoni.
Nous savons qu'il y a des mesures qui ont été édictées au niveau du ministère de la Santé, au niveau du ministère de la Sécurité publique, surtout dans la prévention dans les milieux publics. Il y a certaines personnes qui veulent semer la confusion, garder encore des esprits non précis à propos de ce qu'ils doivent faire. Nous leur conseillons plutôt de respecter ces mesures. Chaque fois que quiconque voudra bien se rendre dans un milieu public, il est beau et il est bien, il est conseillé. Je pense que même c'est une obligation de se protéger, de porter un masque et de faire les autres mesures hygiéniques nécessaires. Vous voulez prendre votre bus, protégez-vous, portez votre masque. C'est 20 minutes seulement ou 30 minutes seulement en ville, ou même au niveau des trajets interprovinciaux, il faut que les gens se protègent. Le peu de temps qu'on aura porté son masque dans le milieu public ne peut pas équivaloir au nombre de jours, de semaines ou de mois que l'on pourra être alité une fois testé positif, avec des risques même d'en mourir. Donc nous avons éveillé ici la conscience de tout un chacun, de faire des efforts qu'il faut, de faire les efforts nécessaires pour cette protection. Vous prenez votre moto, vous prenez votre tuk-tuk, votre bus, vous allez dans le marché, dans le supermarché, vous allez dans le milieu public, veuillez vous protéger.
Toujours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus au Burundi, certains responsables provinciaux prennent des sanctions à l'endroit des personnes qui ne respectent pas les mesures barrières. Ces sanctions varient suivant les provinces. Le ministère de la Santé avait mis en garde toute personne qui ne respectera pas les mesures prises pour la prévention de cette pandémie, sans préciser la nature des sanctions. Emmanuel Deshimi.
Le communiqué du gouverneur de la province de Karusi, Karini Barushimana, est clair. Toutes les personnes qui s'embrassent s'exposent à une amende de 1000 francs chacun. Se laver les mains avant d'entrer dans un bureau pour les demandeurs de services est obligatoire. Le contrevenant se verra infliger une amende de 1000 francs aussi. Tout individu ne disposant pas de matériel complet de protection contre la propagation du Covid-19 versera une amende de 10 000 francs selon ce communiqué signé par le gouverneur Karini Barushimana. Pour le cas de la province de Rumonge, une amende de 50 000 francs sera infligée aux chauffeurs qui ne portent pas de masque. Les motards seront taxés d'une amende de 20 000 francs s'ils déplacent les clients sans masque. Et les responsables des bars se verront infliger désormais à la hauteur de 50 000 francs s'ils ne respectent pas les mesures barrières. Les taxis-vélos ne sont pas épargnés par ces mesures. Ils paieront une amende de 5 000 francs. Dans tous les cas, les voyageurs paieront une amende de 5 000 pour ceux qui se déplacent en transport commun et 2 000 francs pour ceux qui seront surpris en déplacement sur les vélos et les motos sans port de masque. Et ces mesures ont été annoncées par Consolateur Nitunga, gouverneur de la province de Rumonge.
Maître Jean-Jean Wigilimana, un des défenseurs des droits de l'homme, explique que ces amendes sont légitimes et demande qu'elles soient harmonisées. Maître Jean-Jean Wigilimana.
L'inquiétude se situe au niveau de l'absence d'harmonisation des mesures d'application qui sont prises au niveau des communes, au niveau des provinces, parce que ces autorités administratives sont en train d'appliquer les mesures gouvernementales, chacune de sa façon. Nous pensons qu'il y a nécessité d'une harmonisation afin que les mesures qui soient en vigueur au Burundi dans le cadre de la lutte contre cette pandémie soient les mêmes, pour qu'il n'y ait pas de diversité ou de contradiction dans les mesures qui sont prises et qui sont appliquées, notamment lorsqu'il s'agit d'infliger des sanctions aux contrevenants par rapport aux mesures qui sont déjà prises. Il y a des amendes administratives qui ont été déjà déclarées par certaines autorités administratives ou communales. Nous pensons que toutes ces mesures, toutes ces sanctions devraient être les mêmes pour tout le pays. Le Burundi est un petit pays, il ne faudrait pas qu'en arrivant dans une province ou dans une commune, on soit amené à se demander quelle est la mesure qui est en vigueur dans cette province ou dans cette commune. Nous pensons que l'harmonisation serait le meilleur moyen pour la bonne application des mesures actuellement en vigueur dans le cadre de la lutte contre cette pandémie.
Rôle de l'État dans la prévention de la COVID-19. À travers le ministère de la Santé publique, le gouvernement devrait élaborer des stratégies de prévention et de gestion de la COVID-19, à savoir une identification rapide des cas suspects, un isolement immédiat dans l'attente des tests, une prise en charge clinique sécurisée, créer des zones d'isolement avec un effectif de personnel suffisant, établir des canaux de communication entre les établissements de santé et les autorités de santé publique. Contrôler régulièrement l'application des mesures barrières pour la prévention de la COVID-19.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agateka Kawe,
en partenariat avec Internews, financé par l'Union européenne.
Suite de cette rétro avec la criminalité dans les camps des réfugiés burundais en Tanzanie, un réfugié burundais du camp de Nduta a été tué la nuit de mardi à mercredi. D'autres réfugiés soupçonnent la police tanzanienne d'être impliquée dans ce meurtre. Audace Nimbona.
Les informations recueillies auprès des réfugiés burundais du camp de Nduta en Tanzanie confirment la mort de cet homme tué fusillé à l'aide d'un fusil de type pistolet. Ils accusent la police tanzanienne d'être derrière l'assassinat.
J'ai parlé avec son voisin. Il m'a dit qu'il s'est entretenu avec quelqu'un qui fait la garde de l'ONG Plane tout près de son domicile. Il a dit qu'il a vu des motos de la police. Par après, les gens ont crié. Ils ont entendu un coup de pistolet et c'était terminé. Il avait été tué.
Ces réfugiés déplorent les conditions d'insécurité permanente dans lesquelles ils vivent depuis leur arrivée sur le sol tanzanien. S'ils ne sont pas tués, ils sont livrés à d'autres atrocités, dont les violations physiques graves.
Les camps de réfugiés burundais en Tanzanie connaissent de réelles difficultés dans ces jours. C'est notamment le fait que la Tanzanie est en train de détruire les champs de maïs de ces réfugiés. Il y a une chasse à l'homme contre ceux qui étaient rentrés et qui sont retournés craignant pour leur sécurité. On ne sait pas où on les amène. La pluie fait rage et détruit des maisons. Les gens ne sont pas aidés. On leur dit qu'il faut rentrer au Burundi. Vraiment, nous vivons le calvaire. Nous ne savons pas sur quel pied danser. Les gens ont peur des policiers qui les battent si on ne rentre pas avant 17 heures.
Ils demandent au ACR, qui a la mission de les protéger, et à la Tanzanie, qui les héberge, de respecter et faire respecter les textes internationaux qui protègent les réfugiés, et à la communauté internationale, de suivre de près la situation et d'intervenir à temps, car selon eux, n'importe qui peut être réfugié, peu importe les circonstances.
nous n'avons pu avoir ni réaction de la police tanzanienne, ni celle des responsables du camp de Douta. À ce sujet, Frédéric Mvulinyimvila, président de la coalition d'opposition Sefa Arusha, appelle le gouvernement tanzanien et le ACR à collaborer pour que la sécurité des réfugiés burundais soit garantie. On l'écoute.
Je crois que la famille ou un groupe de Burundais dans son camp, les deux peuvent contacter pour chercher un avocat qui doit absolument défendre ce cas. Ce que nous cherchons ici, c'est de déterminer ces personnes qui ont commis ce crime. Et la Tanzanie ne peut pas ne pas aider ces réfugiés à identifier qui a fait quoi dans ce meurtre. Et le HCR ne peut pas non plus s'écarter de ce jeu, il doit être là-dedans, et les deux, la Tanzanie et l'HCR, doivent nous aider à identifier qui a fait quoi. Parce que une personne tuée, il ne s'est pas tué, par conséquent, il a été tué par des personnes identifiées. Qui sont ces personnes identifiées? Rappelons-nous que le responsable de l'Union africaine chargé de suivre cette question a écrit officiellement à la Tanzanie pour qu'elle puisse quand même essayer de respecter, répondre à ses obligations en essayant de protéger les réfugiés qui sont sur son propre territoire. Et on a besoin justement que ce genre de lettres puisse être mise en application. Et sinon, on ne peut pas comprendre que les Burundais puissent continuer à être traités comme des êtres qui n'ont pas de valeur.
C'était Frédéric Mvulinyimvila, président de la CFR Arusha. La nomination de l'ancien directeur général de la Régie des Eaux en autre poste de responsabilité révolte l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Simon Habonimana a été nommé directeur du programme de développement de l'énergie, des mines, des infrastructures et du logement. D'après le LICOM, cet homme qui a été tant critiqué par le chef de l'État pour sa mauvaise gestion de la Régie des Eaux aurait plutôt dû être traduit en justice. Gabriel Roussili, président de l'Élicom.
Après avoir analysé ce décret, il y a un nom qui a attiré notre attention. C'est le nom de l'ex-directeur général de la Régie des Eaux qui a été vivement critiqué par le président de la République du Burundi, le général Evariste Ndayishimiye, et le premier ministre Bunyoni, ou à travers d'abord le président de la République du Burundi lors de sa conférence publique vers la fin du mois de décembre, c'est-à-dire il y a quelques semaines, il a montré que tout le monde, a commencé par le directeur général de la Régie des Eaux jusqu'au plateau, que tout le monde à la Régie des Eaux est voleur. Il a montré, détaillé noir sur blanc que tout le monde est corrompu et détourné des deniers publics à la Régie des Eaux. L'Olicom, après avoir vu ce décret, nous sommes dit que peut-être le nom de Siméon qu'on a vu sur ce décret, on a pensé que peut-être c'est à notre nom semblable, mais après avoir vu les commentaires des conseillers du président sur notre compte Twitter, finalement, nous avons vu qu'il y a un grand problème de vision dans notre pays, un problème d'éthique aussi, parce que au regard des propos, des discours, des messages qui ont été donnés par ces plus hautes autorités du pays par rapport aux dirigeants de la Régie des Eaux, il est vraiment inconcevable d'entendre que dans moins d'un mois, le même individu est nommé aux plus hautes fonctions de l'État.
C'était Gabriel Roussili, président de l'ELICOM, et c'est la fin de cette rétrospective de l'actualité de la semaine écoulée. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de week-end à tous.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.